Je viens d'entendre donc que les ministres, ces ministres vont être évalués. Ils vont subir les évals comme à la Starac. Donc, avis aux amateurs, pour garder Hortefeux, tapez Vichy. Pour éliminer Hortefeux, tapez 1. Pour éliminer Kouchner, tapez Bouffon. Pour éliminer Boutin, tapez Vatican. Allez, ciao. Et vive la privatisation de la démocratie. Ah oui, parce que, autre chose, petit bonus, c'est un cabinet privé qui s'occupe de ça. Amusant, non? Avec vos sous, nos sous. Fantastique. De mieux en mieux, hein? On continue comme ça ou on reste des larves jusqu'à ce qu'on se fasse plumer jusqu'au bout? Hein? Allez, salutas muchachos. Bruno, Parigi, allez. Miseria. Allez, à bientôt. Ciao. Merci.
Oui, bonjour Daniel, c'est Jean-Marie à Bourg-en-Bresse. Eh ben, ça y est, ça y est, ça y est. Je viens d'entendre la radio. J'ai entendu la petite histoire au sujet de notre Conseil des ministres. Alors ça y est, les objectifs sont clairs. En fait, la rupture, c'est calquer notre pays. Il y a une grande entreprise en imposant cette culture d'entreprise au plus haut niveau à travers culture de résultats, audit et autres outils, genre des outils qu'on retrouve eh ben, où, ben, dans les entreprises, évidemment. Alors comme ça, on va nous transformer de citoyens en collaborateurs. Hein. Ça, collaborateurs, eh ben, il n'y a plus de droits, il n'y a plus de choix, il n'y a plus de décision, il n'y a plus de démocratie. Hein. Alors déjà, faire contrôler les plus hautes sphères de l'État par une société privée, c'est bien la preuve maintenant qui est irréfutable, hein, bien sûr, que chaque action menée par ce gouvernement sera en faveur du capital privé au détriment des individus que nous sommes. Moi, je pensais naïvement que le contrôle de l'État devait être opéré par le peuple qui les met en place. Hein? Ben, écoute, c'est fini la démocratie. Vive la capitalocratie. Allez, courage. À bientôt.
Qu'est-ce que c'est ce pays? Mais franchement, c'est la France, hein? C'est la France, le pays des droits de l'homme, où on jette les mères par terre? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui lui arrive, là? Qu'est-ce qui fait le peuple français? Qu'est-ce qu'il attend? Il est divisé, il fait plus rien, là. Mais oh, on en est où, là? Ça va faire quoi, 2008? Qu'est-ce que ça va devenir? Oh, il serait temps de vous réveiller, les gars. Oh. Il serait temps de comprendre qu'on est en train de nous prendre pour des cons, quand même. Oh!
Bonjour, Jean-Pierre Labasse de la Porcherie. Voici le message. Étonnant, non? Aurait sûrement commenté Pierre Desproges à l'annonce du jugement du gouvernement par un cabinet d'audit privé. À n'en point douter, cela lui aurait procuré un sacré sujet de poilade. Passé l'effet de la surprise, on se rend compte que cela s'inscrit dans l'axe de la politique de M. Sarkozy, la communication. En effet, le symbolisme de la prépondérance du privé sur le public est patent. Faire contrôler les décisionnaires de la politique par un cabinet d'affaires privé, quoi de plus symbolique? Maintenant, si on considère que les ministres sont des humains et à ce titre faillibles, on peut les supprimer, y compris le premier, y compris le président, puisque c'est lui qui les a nommés. Cela ferait une économie appréciable en demandant à ce cabinet d'audit de diriger directement la France. À n'en point douter, il ne tarderait pas à déclarer celle-ci en faillite. Déjà entendu. Comme dirait l'autre, bonne nuit la France. Pierre, tu nous manques. Allez, salut à tous.
C'est la nouvelle du jour. C'est en tout cas la nouvelle qui vous a le plus inspiré de commentaires dans la boîte vocale de la basse si j'y suis de ce jour. Il faut peut-être ici rappeler ce que disait un certain David Rockefeller, déclaration au Newsweek du 1er février 1999, je cite David Rockefeller. Quelque chose doit remplacer le gouvernement et le pouvoir privé me semble l'entité adéquate pour le faire. Voilà, fin de citation. David Rockefeller a donc servi de penseur pour cette réforme du contrôle donc de nos élus, de l'élite, de l'État élu par des cabinets privés. Ça, c'est une chose qui vous a frappé. D'autres choses vous ont frappé et vous ne vous êtes pas privé d'en faire des commentaires dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37. Et notamment ce message qui s'étonne de ce que l'on jette des mères par terre. Alors, qu'est-ce que c'est des mères? Il faut savoir que ça s'écrit M-A-I-R-E. Eh oui, on a vu dans le reportage d'hier de Pascal Pascariello et de François Ruffin comment effectivement un maire, un élu, peut se faire jeter d'un conseil d'administration, le conseil d'administration des actionnaires de LVMH. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas, il n'était pas actionnaire et donc il ne peut pas assister à cette rencontre des actionnaires. Vous pouvez y assister si vous êtes détenteur d'une action. Ce que fait cette représentante que nous allons retrouver, Madame Bourlard. Aujourd'hui donc, vous avez compris, deuxième volet de cette contestation bien actuelle, mais qui, grâce à des penseurs comme David Rockefeller, devient de plus en plus une chose du passé. Auparavant, d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis, dont je répète le numéro, mais vous le connaissiez, 01 56 40 37 37.
Mon message, c'est pour vous annoncer le futur repère de Mornant le 7-01, donc le 7 janvier, dans le Rhône, au Petit Bistrot, chez Alain, place des Platanes à 20h. On va parler du traité européen, ni simplifié, ni modifié. Donc on vous attend nombreux pour discuter autour d'un bon verre. Juste un petit mot aussi de soutien aux faucheurs qui viennent de débuter la grève de la faim. Je signale des actions dans le Rhône, avec un rendez-vous samedi matin, le 5, au marché bio de la Croix-Rousse, et l'après-midi, place de la République sur Lyon. Donc on vous attend nombreux, il y a des actions qui sont prévues sur tous les week-ends. Allez, merci, au revoir.
Salut Daniel, Gérard le papier écolo en colère, gréviste de la faim, en face de la bourse à Paris, au ministère de la crise du logement. Eh bien, le petit journal des grévistes de la faim, nous allons bien, nous avons vu les médecins qui sont venus nous voir hier, nous sommes extrêmement concernés, nous avons décidé d'aller jusqu'au bout, il faut le savoir. On a un petit peu, on est surpris, bon, la presse, finalement, on a relativement peu parlé. On a beaucoup parlé que Ségolène Royal est venue nous voir, mais les grévistes de la faim eux-mêmes, on est peut-être un peu laissés pour compte, c'est dommage. Enfin bon, j'ai envie de dire, José va bien, tout le monde va bien, et tous les jours, je téléphonerai pour donner des nouvelles des grévistes de la faim, voilà, qui veulent un moratoire, qui veulent imposer au gouvernement de dire la vérité et de promulguer ce moratoire ou de déposer la clause de sauvegarde. Salut, merci des grévistes de la faim.
Bonjour, Daniel Mermet, bonjour surtout à toute l'équipe. Mes meilleurs voeux de bonheur, de santé, si toutefois, enfin bon bref, ça dépend de bien des choses. Et beaucoup de bonheur aussi à tous les AMG qui sont notre famille radiophonique. Voilà, j'ai pas trop grand chose à dire, il y en aurait beaucoup. Surtout sur Sa Majesté Sarko qui devient de plus en plus totalitaire, si je peux dire. On admire l'Amérique misérable. Ce qui m'a frappé surtout dans la revue de presse ce matin, c'est que les jeunes sont bien sûr déboussolés, peut-être révoltés sans doute. C'est justement, il faudrait qu'ils soient révoltés, mais que leur révolte soit constructive parce que sans eux, on ne pourra jamais rien. Il faut s'armer de courage surtout pour faire face à ce gouvernement qui prend de plus en plus les libertés. J'ai honte pour un gouvernement pareil. J'aurais honte d'appartenir à un gouvernement comme ça. Faut-il quand même qu'ils aient envie d'argent et de puissance et de... C'est fou, C'est révoltant quand on pense qu'ils ont interpellé un prêtre qui donnait à manger à ces pauvres malheureux qui traînent là-bas à Sangatte. C'est révoltant. Jamais on a vu ça. Bon, eh ben, bon courage à tous, surtout, hein. Il faut pas que ça vous décourage. Moi, je suis pleine de courage et pourtant, je suis bien âgée, hein. Allez, je vous embrasse tous et bon courage, Daniel, surtout.
Ce dimanche, le roi Jean-Marie Roche, 78 ans, 36 ans de règne, invite sa cour pour lui présenter ses bons voeux dans son palais à Metz. Nous, les gueux, ainsi que le café repère de Metz, invitons les habitants à lui présenter nos voeux sous ses fenêtres, place d'armes, dès 10h du matin, ce dimanche 6 janvier.
On attend toujours Monsieur Bernard Arnault.
Bernard Arnault, nous voilà.
Monsieur Arnault.
Nous, n'oubliez pas que maintenant je suis actionnaire.
Ah ouais.
Et votre banquier, il a dit quoi quand vous êtes allé acheter l'action?
Elle m'a regardé tout bizarrement. Elle me dit une action, mais vous ne voulez pas plus? J'ai dit non, une. Elle dit c'est pas votre genre, acheter des actions. Ben, j'ai dit il faut changer dans la vie, hein. Maintenant, je vais être actionnaire.
C'est Daniel Mermès, c'est la Basse et j'y suis avec Pascal Le, Pascal Yellow et François Ruffin, l'Assemblée des actionnaires.
Flight number 2, arriving from
New York. Ouais!
Marilyn, là, on est, c'est les deux quarts qui se suivent.
Oui, et ils sont plats. Nous sommes une centaine.
Attends. Aujourd'hui, ils veulent fermer notre usine de poids du Nord. Ils nous virent sans pitié, mais nous, on y croit encore.
Alors, notre opération aujourd'hui, nous allons au Palais du Louvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. LVMH, qui est notre donneur d'ordre à ECCE, et c'est quand même, c'est lui qui décide où on fabrique les costumes que nous fabriquons encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est la journée des actionnaires. Et ils se rassemblent au Palais du Louvre, dans une salle. Donc il y aura sûrement Bernard Arnault.
On attend toujours Monsieur Bernard Arnault.
Donc moi, comme j'ai une convocation, je vais rentrer à l'intérieur. Et je vais essayer, je dis bien essayer, d'inviter Bernard Arnault et ses actionnaires de sortir. D'abord, on va se faire entendre. J'espère que vous crierez toutes vos forces. Enfin, pas maintenant, quand on va être devant la porte. Hein. On ne veut pas aller en Roumanie, ni en Pologne. Donc, on a travaillé là des années et on veut rester là.
Stop !
Pourquoi vous lui fermez la porte ? Cette dame est actionnaire.
C'est je suis actionnaire,
vous êtes,
moi.
Vous êtes en train de fermer la porte à
attendez,
une dame...
je suis actionnaire. J'ai quand même le droit d'être à l'intérieur. Allez-y. Attendez, je ne veux pas être bousculée, monsieur. Je suis actionnaire. N'oublie pas de lui.
Allô, François ? Elle est rentrée en dernier, ils ont failli tout fermer parce qu'on a arrivé avec les banderoles, mais elle est là. Voilà, elle est à l'intérieur. Bon, à tout à l'heure.
Et voilà. Mais vous pouvez faire la même chose, hein. Ah oui, si vous voulez assister à une assemblée d'actionnaires, c'est formidable, une assemblée d'actionnaires. Des gens assis, qui roupillent, bedonnant, tout contents. Les rentiers, vous savez, des romans du 19e, ben les voilà, les revoilà. Les petits bourgeois, mais oui. On est méchants, mais c'est, on a envie. Hein. On a envie, comme disait cet auditeur, ça me met la rate au courbouillon. Ma maman disait ça, ça me met la rate au courbouillon. On comprend quand même, là, il y a des moments. Oh, bien sûr, on comprend aussi le petit actionnaire. Les petites économies, on dit, ce serait dommage que ça pourrisse dans un bas de laine. Alors, on va placer ça quelque part en espérant que... Ben oui, qu'est-ce que c'est? Voilà, l'écureuil, les noisettes, on s'y est mis, quoi. Est-ce que les dindons ne seraient pas aussi, parfois, les actionnaires dans cette farce qui, quand même, parfois, a des couleurs de drame, la rate au courbouillon ou... l'Assemblée des actionnaires. Là-bas, c'est JSP jusqu'à 16h.
On attend toujours Monsieur Bernard.
Si vous voulez bien. Maintenant, voilà le premier clip des questions qui ont été réunies par notre service de communication auprès de nos actionnaires.
Trois quarts d'entre vous mettent en avant la stratégie du groupe comme le centre d'intérêt majeur de l'Assemblée. L'année 2006 a confirmé l'excellente vitalité des grandes marques qui ont contribué de se renforcer et de gagner des parts de marché. Mais se demandent nombre d'entre vous, quelles sont les marques stars montantes de LVMH qui vont assurer des relais de croissance pour demain? Autre question que vous suggérez sur ce thème, quelles sont les régions du monde où le groupe pense pouvoir accélérer sa croissance? Quelles sont les ambitions de LVMH sur les nouveaux marchés émergents, comme la Chine, l'Inde et l'Europe de l'Est? Comment évolue la part de marché du groupe sur ces régions? Enfin, vous vous demandez, quels sont les projets de croissance externe de LVMH? Le groupe songe-t-il à des projets de rapprochement avec d'autres domaines du luxe?
On est dans le hall avant d'entrer dans l'Assemblée Générale des Actionnaires. On nous a remis un petit boîtier pour voter. On nous invite à aller nous inscrire au club des actionnaires qui propose des réductions, des avantages sur les produits LVMH. Alors sur quels produits, sur des parfums, sur du maquillage, sur des bouteilles de mousseux. On peut même aller faire des séjours en province et aller déguster du cognac à meilleur prix. Comme là dans l'équipe, on est tous devenus des petits actionnaires. On a investi dans LVMH, on croit en LVMH, on croit au potentiel de croissance du luxe. Une personne me l'a confié tout à l'heure. De toute façon, il n'y a pas à s'inquiéter avec le luxe. Il y a de plus en plus de riches et ils sont de plus en plus riches.
Voilà, alors, vous avez compris que notre reporter est en bédède. François Ruffin est en bédède, ainsi que Pascal Pascariello. Ils sont là, mais leur clandestin, hein, faut pas, vous ne direz pas, hein. Ah oui. Et alors, ils sont pas les seuls. Il y a aussi, donc, Marie-Hélène, Bourlard, qui rêve de parler avec Bernard, Arnaud, elle est là aussi. Et il y a également, Madeleine Chorton de la Samaritaine, qui est déléguée syndicale. Voilà. Et voilà la petite. Et puis, il y a également, un ami qui s'appelle Bertrand. Bertrand aussi fait partie des embédettes.
Alors, Bertrand est en train de discuter avec un actionnaire.
Vous êtes inscrit au club des actionnaires, non?
Oui, non, mais je veux juste savoir quand est-ce qu'ils donnent les cadeaux, parce que je relais chez 26 mois.
C'est à la fin de l'assemblée, c'est vers 13h.
Parce qu'il y a une époque où ils distribuaient les cadeaux avant?
Non, jamais.
Il y en a qui distribuent Air Liquide Total distribué avant, je crois.
Non, plus Total.
Mais Air Liquide distribué avant.
Je ne sais pas ce qu'on a à la sortie, qu'est-ce qu'on a à la sortie. C'est la première fois que j'assiste à ça.
C'est un cadeau, c'est une bouteille de champagne, bien, ça dépend des années, ouais. Hein, ou leur cognac, parce qu'ils ont du cognac NC, voilà, c'est ça.
Vous pensez que c'est pour ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui vient, là.
Oui, oui, si, et c'est surtout pour ça. Ouais, puis il y a un cocktail aussi. Hein, donc,
après
voilà. Oui. Il y a un cocktail où ils donnent tout leur champagne. Hein, donc.
Il y a un cocktail après.
Ah d'accord. Mmh. Je suis Bernard Arnault et Antoine.
Ah ça commence. Bon, d'accord, on va y aller.
La situation financière.
Merci.
Alors là, on rentre dans l'Assemblée Générale des Actionnaires. C'est une salle. Ouh là là, c'est une salle immense. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Si, tout au fond de la salle.
Mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes très nombreux cette année. Je vous remercie de votre présence et je déclare l'Assemblée générale ouverte. Je voudrais souligner la performance excellente de votre groupe en 2006 avec, comme vous l'avez vu dans les résultats, une forte croissance organique des ventes, 12% à laquelle contribuent toutes les zones géographiques et tous les métiers du groupe, puisque résultat est en croissance à deux chiffres dans tous les secteurs d'activité. Un résultat opérationnel courant en augmentation de 16% pour l'année 2006. Une amélioration de la marge opérationnelle et un résultat net en hausse de 30%. Le groupe a encore renforcé en 2006, on peut le dire, son avance sur le marché mondial du luxe grâce au succès de nos marques phares et grâce à l'émergence d'un certain nombre de marques que nous avons développées avec un grand succès en 2006.
Voilà, on est assis presque au dernier rang dans cette salle qui est vraiment immense, immense. On est très loin, très loin. Et on voit juste un tout petit peu la tête de Bernard Arnault, heureusement. Il y a des écrans qui retremblent, on se met le discours, mais on n'entend pas tout.
Aujourd'hui, on peut dire que près de la moitié des postes de cadre sont pourvus par mobilité interne. C'est sûr que...
Depuis une heure au moins, Bernard Arnault tient un discours, montre des petits films, des schémas, des graphiques qui disent tous que tout va pour le mieux dans le groupe LVMH. Le dividende sera en hausse de 22%, le cours de l'action a augmenté, un résultat net qui est de plus de 2 milliards d'euros. Fait vraiment, tout va bien. C'est un peu ennuyeux. D'ailleurs, derrière nous, un monsieur demande à sa femme de rentrer parce qu'il s'ennuie et sa femme ne veut pas. Elle lui dit de ne pas oublier le petit cadeau à la sortie.
Le prix dominant entre France et certains pays d'Europe ou voisins de l'Europe. Est-ce que vivre en Chine, que le seul sur le marché français, international,
ouais, alors c'est un peu long hein, dans l'assemblée. Les actionnaires, ils s'ennuient, ça roupille même un petit peu. C'est long, c'est très très long. Ils pensaient assister à la grande messe de la rente. Et non, ils roupillent. Mais il y a quelque chose qui les réveille un petit peu, ces braillements à l'extérieur de la salle. Et ben voilà, ce sont les salariés qui risquent d'être licenciés des entreprises dépendantes de LVMH qui protestent. Alors évidemment, ça gêne l'Assemblée et on va avoir une chargée de communication qui va essayer d'engager le dialogue.
C'est pas en hurlant que vous réglerez quoi que ce soit.
Si, mais vous savez bien, si à un moment donné, vous avez un gagne-pain, hein, je sais bien, vous avez un gagne-pain, ce gagne-pain vous est enlevé. Vous savez que vous n'allez plus pouvoir nourrir vos enfants.
Je comprends, madame. Je suis mère avec
quatre enfants. Vous ne pouvez que crier.
Oui, mais ça n'est pas en criant que vous allez pouvoir régler. Mais ça ne va pas résoudre le problème. Et je comprends, bien sûr.
Si à un moment donné, elle se heurte à un mur qui dit ce mur-là, c'est terminé. Il n'y a plus de travail pour vous. Il n'y a plus de travail.
Là-dedans,
regardez cette dame-là. Cette dame.
J'ai un homme malade, tout ça.
Ouais. Elle ne retrouvera pas de travail.
Je vois 25 ans.
Elle ne retrouvera pas de travail.
C'est peut-être quelque chose qui peut être négocié éventuellement avec le groupe en termes de reclassement. Il faut regarder tout ça.
C'est ce que c'est.
Mais ce n'est pas maintenant, tout de suite. Moi, je dirige la société Capitalcom qui organise l'Assemblée Générale.
D'accord. Et donc, vous êtes venu pour essayer d'expliquer
De calmer un peu, d'apaiser le climat.
Est-ce que vous pensez que c'est pas bien de hurler aux portes de l'Assemblée?
Non, je crois que c'est pas comme ça qu'on règle les conflits. On a organisé une séance de négociation avec le directeur des affaires sociales et je pense que c'est plus efficace. Ça ne peut pas se passer comme ça, malheureusement.
Pourquoi ça ne peut pas se passer comme ça? C'est effrayant.
Parce qu'on est en pleine séance d'assemblée. L'assemblée est une institution qui est privative, qui est réservée aux actionnaires. C'est juste pas possible. Ce sont des questions qu'il faut négocier au cas par cas et qu'il ne peut pas faire, en tout cas, pas dans le contexte de l'assemblée générale. C'est pas le bon contexte pour ça.
Et vous êtes, monsieur?
Non, moi, je m'occupe de l'organisation. Moi, je pense surtout aux actionnaires.
On attend toujours monsieur
Bernard. Jean-Pierre Elkabbach, votre invité ce matin, le PDG de LVMH, Bernard Arnault.
Je crois qu'il reste en France un fonds de culture socialo-marxiste qui a totalement disparu chez nos principaux concurrents.
À quel exemple vous pensez quand vous dites il y a un fonds de pensée, vous dites socialo-marxiste, d'ailleurs cette formule on l'utilise plus.
On l'utilise
en
plus,
politique.
Mais quand, on l'utilise plus, mais quand on entend des discours où on parle de profits fainéants, hein, où on parle de répartir la richesse alors qu'il faudrait mieux essayer de la créer, c'est ce qu'ont compris tous nos principaux concurrents. Quand on voit que l'image des entreprises françaises n'est pas bonne, quand on voit que le mot libéralisme est un mot qui est proscrit, j'étais la semaine dernière en réunion avec le président de la République italienne, Monsieur Napolitano, qui est d'origine communiste. Et il m'a dit, mais comment se fait-il qu'en France, le mot libéralisme soit à ce point tabou, alors qu'ici, en Italie, c'est au contraire un mot à la mode.
Maintenant, nous allons, avec l'ensemble des membres du comité exécutif, répondre à vos questions.
Bernard Arnault a terminé son long speech et il a ouvert la séance des questions. Marie-Hélène Boulard et Madeleine Charton se sont immédiatement levées et elles se sont précipitées sur l'hôtesse qui leur a attribué par une pancarte qu'elle soulève là dans l'allée, le chiffre 12, mais c'est la question 3. C'est la question 3 qui est choisie.
Alors, que va-t-il se passer ? Marie-Hélène Bourlard parviendra-t-elle à poser sa question ? C'est toute la question.
C'est bon ? On sent le micro, c'est bon, là ? Bon voilà, on vient d'être reçu par le directeur des affaires sociales de LVMH et on lui a exposé nos problèmes. Parce qu'aujourd'hui, on nous envoie d'un côté comme de l'autre. Monsieur Deveau, il nous dit que c'est pas lui le responsable. Arnaud, il nous dit que c'est pas lui non plus le responsable. Alors là, on a dit, bah écoutez, nous, ce qu'on souhaite, c'est de se mettre autour d'une table, hein, le donneur d'ordre et le fabricant. Parce qu'aujourd'hui, monsieur Bernard Arnault, il a mis en valeur la qualité de la fabrication française. Eh bien, on veut le prendre au mot. Et aujourd'hui, on est le seul site qui fabrique de la haute couture pour le masculin. Il n'y en reste qu'une usine. Et on demande que l'outil de production reste en France et les 140 salariés puissent continuer à travailler. Parce qu'à Poix-du-Nord, il n'y a plus d'industrie, il n'y a rien. Si on ferme cette usine, c'est plus de 150 familles qui vont se retrouver au chômage. Alors, on a demandé une table ronde avec Bernard Arnault. Le directeur des ressources humaines, il va nous répondre, on lui a laissé nos coordonnées. On a fait aussi savoir que c'est la saison touristique. Si on n'a pas une réponse positive, eh bien c'est pas ici qu'on va venir. On connaît les magasins de M. Bernard Arnault et on fera des sittings partout. S'il faut, on prendra un mois et demi, mais il n'y aura personne qui va rentrer dans ces magasins. Et là, on s'est engagé avec l'ensemble des organisations syndicales d'aller jusqu'au bout parce qu'on n'acceptera pas qu'on puisse nous virer demain sans solution, hein, parce que les responsables, c'est les donneurs d'ordre, mais aussi le responsable, c'est l'industriel. Voilà un petit peu ce qu'on a obtenu, et on va aller jusqu'au bout avec l'ensemble des organisations syndicales.
À l'extérieur de la salle, et le délégué syndical, vous l'avez entendu, relate l'état du dialogue social et de ce qu'ils ont pu obtenir auprès de la direction de LVMH pour essayer de sauver ses emplois, et notamment ses familles, parce qu'effectivement, on dit 150 licenciés ou 150... Ben, c'est 150 familles la plupart du temps. Mais pendant ce temps-là, à l'intérieur de la salle, il y a l'intérieur et l'extérieur, on retourne à l'intérieur de la salle où Marie-Hélène espère toujours enfin pouvoir poser sa question.
Dernière question, numéro 1, et bien entendu ensuite, l'équipe sera avec vous pour répondre directement aux questions pendant le cocktail.
Alors là, Marie-Hélène Bourlard et... Emmanuel Charton proteste auprès de l'hôtesse parce que Bernard Arnault vient d'annoncer la dernière question et qu'elles n'ont pas pu poser la leur. Or, Marie-Hélène Bourlard, qui a fait 200 km pour poser sa question à Bernard Arnault, elle proteste auprès de l'hôtesse. Non, mais c'est la dernière question. La question ne sera pas posée. Alors, Marie-Hélène Bourlard s'avance dans les allées, elle se dirige vers l'estrade.
On va s'aller et vous savez que le parfum
Oh la vache, c'est impressionnant là, de marcher, d'avancer comme ça vers l'estrade devant des centaines, des milliers de petits actionnaires qui sont venus pour écouter parler de leur dividende. C'est impressionnant quand même de se retrouver, d'aller au-devant chatouiller la première fortune de France sans doute. Marianne Boisleur fonce. On découvre le premier rang. Au premier rang, devant Bernard Arnault, donc témoin du mariage de Nicolas Sarkozy. Et il y a Arnaud Lagardère, bien bronzé, qui s'est déclaré frère de Nicolas Sarkozy. Antoine Bernheim, le banquier de Lazare, qui était au Phuket le dimanche soir de la victoire de Nicolas Sarkozy.
Et que vous êtes prête à faire moins de bénéfices pour re-signer un nouveau contrat avec ECCE pour garder la production française. Parce que c'est 147 salariés qui vont être dehors.
Même si vous utilisez une dialectique adaptée à votre fonction de syndicaliste.
Mais vous mettez dehors 147 salariés.
Et que si nous avions annulé le contrat, il n'y aurait pas eu de problème, on n'en aurait pas parlé.
Vous continuez à délocaliser dans les pays de l'Est. Il y a les 147 salariés, je voudrais que vous les voyiez et que vous osez les voir là dehors en face et leur dire je ne veux plus travailler avec vous.
Madame, il y a ici 2000 personnes qui sont venues pour entendre parler du groupe LVMH.
Est-ce que les petits actionnaires sont prêts à perdre un peu d'argent pour que 147 salariés vivent encore?
Je suis désolé des problèmes que ça peut poser aux personnes.
Il y a des salariés qui attendent une réponse dehors.
Et je pense que le mieux, ce serait qu'on puisse se parler dehors.
On vous a déjà écrit, vous n'avez même pas la politesse de répondre.
Alors là, il y avait déjà les vigiles qui se trouvaient devant nous. Il y avait déjà les vigiles qui nous empêchaient de passer. Mais là, en plus, il y a les services de la communication, les services sociaux de LVMH qui font barrage aussi, qui viennent à notre rencontre, qui viennent discuter pour nous faire sortir.
C'est votre collègue?
Ça, c'est la Samaritaine. Là aussi, on les a mis dehors. Et alors? Elle a le droit, vous lui avez privé de travail.
Madeleine Charton est en train de, dans un face-à-face avec Bernard Arnault, sauf que Bernard Arnault a le micro et Madeleine Charton ne l'a pas. Donc d'ici, on n'entend rien, on cherche à passer. Mais le vigile ne veut pas qu'on passe. On voit bien quand même à la tête de Bernard Arnault que c'est comme, un peu comme si on lui gâchait sa fête d'anniversaire. Il n'est pas content.
C'est jamais l'heure, c'est jamais l'endroit. Tout de suite, les gros bras, là. On est des salariés, monsieur, on est dignes. On veut du travail et rien d'autre. Et que les actionnaires s'en foutent moins dans les poches.
Pourquoi ne permet pas de faire une proposition?
Vous êtes un partenaire et on va
pourquoi
regarder.
Pourquoi ne permet pas de faire une proposition?
On va regarder. Vous
non, mais attendez.
Un partenaire d'LVMH.
Moi, j'aimerais avoir le micro pour faire une proposition. Pourquoi on ne proposerait pas?
C'est pas dans ce contexte-là.
Pourquoi? Mais pourquoi? Attendez, mais pourquoi? Je veux dire, effectivement, pourquoi on ne peut pas proposer qu'effectivement il y ait une diminution des dividendes pour régler ce problème-là? Mais attendez, mais pourquoi on ne peut pas demander qu'il y ait une diminution des dividendes pour régler ce problème-là?
Oui, à une diminution des dividendes!
Mais pourquoi on ne ferait pas une proposition? Mais attendez, mais on peut faire une proposition, vous répondez, puis c'est bon, on s'en va! Mais pourquoi
ne la bousculez pas, vous, hein?
Personne ne la bouscule.
On dérange parce qu'il y a 147 chômeurs dehors et la Samaritaine aussi.
Franchement, je ne crois pas que vous faites une unité ici.
Pourquoi on ne peut pas faire une proposition? On est en face d'actionnaires. Pourquoi on ne peut pas leur faire une proposition en disant... Mais non, mais pourquoi on peut faire une proposition? C'est pas le lieu de quoi? Le lieu de quoi? C'est une démocratie. C'est une démocratie. Non, c'est pas une démocratie, c'est quoi?
On vous propose justement que dans le cadre du dialogue social, on organise maintenant une réunion.
Mais attendez, moi je suis actionnaire, moi je suis pas salarié. Moi je suis actionnaire.
C'est pas possible qu'on a travaillé des années pour Kenzo, qu'on a fabriqué du haut de gamme, les petites mains, et qu'on va nous foutre dehors comme des malpropres, alors que LVMH s'en fout plein les poches.
Ça n'est pas en assemblée qu'on peut régler ce type de conflit.
Donc, on pourrait proposer un 3-3.
Le cas de CC est un cas particulier puisque vous n'êtes pas salarié du groupe.
Nous, tout ce qu'on veut, madame, c'est du travail.
Vous avez Pierre Roussel qui est ici. Je suis secrétaire du groupe. On peut y aller maintenant. C'est-à-dire, si on retourne devant les gens qui vous ont délégué.
Tout à fait. Nous sortons.
Qu'est-ce qu'on fait? Mais on vous accompagne.
Avec vous. Bernard Arnault, on se reverra.
Oui.
On est poussé vers la sortie. On nous invite à sortir à la fois les vigiles et les membres du conseil de LVMH.
Il y a le premier rang, il y a Antoine Bernheim notamment, au premier rang, qui applaudit notre éviction.
Croyez-moi que j'ai parlé là-bas, on ne m'a pas donné la parole, mais je l'ai pris. Et Bernard Arnault, il m'a écouté, il ne m'a pas répondu, ça c'est sûr. Parce que tout ça, s'il n'y a pas l'habitude de voir ça. Croyez-moi que la copine de la Samaritaine et votre délégué CGT a intervenu. Nous, tout ce qu'on veut, c'est revoir le contrat. Donc, il y a le responsable ici. C'est monsieur...
Sanchez. Vous m'entendez?
Non.
Faut que j'appuie sur le bouton. Voilà.
Vous n'avez pas l'habitude. Allez-y.
Je manifeste assez rarement. Je viens de recevoir une délégation. Arrêtez ça, je vais parler fort. Je viens de recevoir 5 personnes qui ont été désignées. Je crois que ces personnes sont par là. Voilà. On a discuté. Je suis désolé, je n'avais pas prévu d'avoir un micro.
Nous non plus, on n'a pas eu de micro et on a été obligé d'élever la voix. Voilà. Nous non plus, on ne nous a pas donné le micro.
Donc, nous ne vous attendions pas spécialement. Je vous reçois parce qu'il est normal que vous soyez reçus. J'ai rencontré cette délégation de 5 personnes qui vous représentent, qui m'a rappelé la situation dans laquelle vous êtes, les difficultés, le plan social, ce que vous contestez, ce que vous ne comprenez pas, qui vous paraît incompréhensible.
Il faut revenir sur des productions françaises, monsieur. C'est notre survie à Poix du Nord.
Madame, on me l'a dit, et j'ai bien compris le message. Des incompréhensions que vous perceviez entre les uns, les autres, et d'une situation que vous ne pouvez pas comprendre.
Nous comprenons très bien que LVMH veut s'en foutre plein les poches. Et ça, on ne l'accepte pas.
Je ne peux pas, attendez. Une situation que vous ne compreniez pas, qui ne vous semblait pas logique, et sur lesquelles vos représentants ont dit qu'ils souhaitaient qu'il y ait une table ronde intégrant les représentants des salariés, les représentants de LVMH, les représentants de votre entreprise, de CCE, les élus locaux. J'ai entendu cette demande. Je me suis engagé à faire remonter le message aujourd'hui même à la direction générale du groupe LVMH. J'espère que nous pourrons, avec les uns et les autres, sortir de cette situation.
D'ici 15 jours, par exemple, vous allez leur donner
une
réponse.
D'ici 15 jours, ça me paraît possible, oui.
Tiens, dans 15 jours, hein. Dans les 15 jours. Parce qu'on se reverra, monsieur. On ne vous laissera pas comme ça, hein. Donnez un tract à monsieur Bernard Arnault.
Écoutez, je vous souhaite ça. Un bon retour.
Alors, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Mais ensuite, les actionnaires sont sortis de la salle au bout de cette... comment on va appeler ça ? Un psychodrame, un petit drame, un petit trouble, des petits moustiques qui sont venus troubler une séance paisible. Attention, il y a des moustiques qui vous collent le palu.
Alors là, il y a les actionnaires qui sortent avec leurs petits cadeaux roses. Ça a l'air d'être du champagne Moët et Chandon, une petite bouteille de champagne Moët et Chandon. Devant, il y a une banderole, il y a une haie qui s'est formée avec les salariés et des tracts qui sont distribués aux actionnaires qui sortent. Une banderole avec marqué ECCE, LVMH, Fossoyeur, d'emploi.
C'est deux mondes différents qui se côtoient. Hein.
Okay.
Ah non, m'interviewez pas, je suis pas ni de l'un ni de l'autre. Moi.
Vous êtes d'un monde quand même.
Je suis à la préfecture.
Vous êtes à la préfecture?
Oui.
On change une petite bouteille de Perrier contre une petite bouteille de Moët et Chandon. On change une petite bouteille de Perrier comme une bouteille de Moët et Chandon.
Qu'est-ce que vous voulez faire, madame?
Je veux échanger ma bouteille de Perrier contre leur bouteille de Moët et Chandon. Ils sont pleins d'argent, vous n'allez pas me dire qu'ils ne peuvent pas m'offrir ce petit échantillon, non?
C'est normal, les travailleurs sont au Perrier et les actionnaires
Moët et Chandon, voilà. Monsieur, vous voulez pas faire un échange? C'est une pièce de collection, hein. Ça vient d'un militant de la CGT, il y en aura bientôt plus.
On va essayer de discuter avec un actionnaire. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe?
C'est lamentable. Pour quelle raison? Parce que c'est pas fait pour ça. Mais... C'est une grande réclamation qui est face à... par la voie hiérarchique. Moi, je ne suis pas patron, mais si j'étais patron, une demande comme ça, On voit tout le monde promener.
Mais si par la voie hiérarchique, ça ne marche pas.
Eh ben on quitte sa boîte. On quitte sa boîte. On n'est pas content. Si tout le monde s'en va, ils seront bien embêtés. Ils sont pas contents de leur patron qu'ils en changent.
Vous avez changé souvent de boîte, vous, monsieur ?
Pardon ?
Vous avez changé souvent d'entreprise ?
4 fois.
Et vous avez retrouvé du boulot facilement derrière ?
Quoi ?
Vous avez retrouvé du boulot facilement derrière ?
Oui. Oui, parce que j'ai des diplômes, je suis qualifié.
Et quand on n'a pas de diplôme et qu'on n'est pas qualifié, c'est moins facile.
Alors c'est moins facile, mais on trouve quand même. Mais quand on fait ça, on ne trouve pas.
C'est vraiment déconseillé sur le marché de l'emploi, ce genre de comportement.
Absolument.
Comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui, l'Assemblée, qui était un peu mouvementée, je crois ?
Elle a été mouvementée à la fin. Et j'ai été pas très agréablement surprise par la réaction ni de la salle, ni du président, qui ont pour moi exprimé un mépris fondamental. Ben, il y a eu intrusion de cette personne. Elle a revendiqué, elle a dit que LVMH lâchait 147 personnes sur le carreau. Et Bernard Arnault avait une réponse très simple qu'il a donnée pendant l'Assemblée, qui était « on aurait très bien pu laisser tomber ce fournisseur, comme ça on n'en aurait pas parlé dans la presse ». On a continué à lui faire confiance, on a donc sauvé cette entreprise. Et on a enchaîné les votes les uns sur les autres en ne faisant plus attention à sa présence et tout le monde était fort content dans l'Assemblée. Ça, j'ai été très gênée. Je ne connaissais pas ce dessous-là, je l'ai découvert aujourd'hui.
Vous n'allez pas vendre pour autant vos actions LVMH ?
Non, non, ce sont les bonnes actions, ce serait dommage de les vendre. Mais il y en aura d'autres que je vendrai avant de vendre les LVMH, hein, c'est vrai, malheureusement.
Et vous, vous faites quelle profession ?
Bah, malheureusement, je suis sans emploi. Et arrêtée, je ne pourrais plus travailler, pour l'invalidité. Donc quand elle a dit « vous ne connaissez pas les gens dans le besoin », il y a des gens dans le besoin. Ah si, 460 euros par mois, je pense que ça s'appelle être dans le besoin. Ça sont mes revenus.
Et oui, on trouve ça aussi, des gens comme ça, parmi les actionnaires. Sans doute assez peu, mais on en trouve quand même. Et n'oubliez pas, il s'agit de petits actionnaires, ne pas confondre. C'est comme les petits patrons et les grands patrons. Il y a des petits actionnaires et des gros actionnaires. Voilà encore quelques-unes de leurs réactions à la suite des scènes que nous venons de vivre.
Je voudrais avoir votre sentiment simplement. Je suis élue.
Oui, bah c'est très bien.
Je suis élue. Je vous demande ce que vous en pensez de mettre 147 familles. Briser 147 familles. 147 mamans sans travail.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur ?
Eh bien, je trouve que c'est très bien. Il n'avait qu'à se démerder avant.
Se démerder, mais c'est eux qui ont produit la richesse. C'est leur travail avec leurs mains, ce sont des petites mains.
Madame, ça fait 40 ans que les ouvriers...
Elles travaillent très bien.
Ça fait 40 ans que les ouvriers se laissent massacrer, piétiner et n'ont rien fait.
Mais vous n'auriez pas voulu baisser votre dividende de 0,01% et que ça...
La question n'est pas là. La question, c'est que les ouvriers se laissent marcher sur les pieds depuis des années et des années et qui ne bougent pas et qui sont contents de voir des gens qui ne foutent rien et qui s'en mettent plein les poches.
Mais c'est pas vous qui les piétinez des fois ? En engrangeant des dividendes quand on licencie et qu'on délocalise ?
Non, ceci est un autre problème.
Non, mais c'est vrai, l'action augmente.
Ceci est un autre problème. Ils sont 145, là, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 40 ans ? Rien. Ils ont absorbé, ils se sont contentés de ce qu'on leur disait, de ce qu'on leur donnait. Et puis voilà. Et puis ils ont essayé surtout d'en faire le moins possible, parce que de toute façon, pour ce qu'ils sont payés, ils en font le moins.
Et vous, quand Bernard Arnault augmente sa fortune de 3 milliards d'euros l'an dernier et qu'on délocalise, vous ne trouvez pas que c'est un peu Bernard Arnault qui les piétine ?
Mais bien sûr que si. Et alors, où est le problème ? C'est pas en faisant ça, hein ? Certainement pas. Mais faut pendre les gens, mon vieux. Faut les pendre.
Faut pendre Bernard Arnault ?
Bah, entre autres. Entre autres.
Vous êtes un actionnaire radical, vous ?
Je ne suis pas un actionnaire radical. Je suis un actionnaire simplement. Simplement un actionnaire qui regarde qui se fait piétiner et qui s'enrichit ou qui piétine les autres. Eh bien, c'est simple. Il y a les exploiteurs et les exploités. C'est tout. Il faut choisir dans quel camp on veut se mettre.
Donc vous avez choisi d'être dans le camp des exploiteurs ?
Des exploités, mon vieux.
Ah bon ? Mais vous êtes actionnaire, quand même.
Et alors ? Eh bien, en tant qu'actionnaire, je suis exploité, puisque je suis un actionnaire minoritaire. Là, il y a eu des votes, parce que vous ne savez pas grand-chose. Il y a des votes. Tous les gens là, qui étaient là, ils peuvent toujours voter contre. 95% sont dans les mains de 3 mecs. Point, terminé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, si on n'est pas d'accord, il faut les pendre.
Et vous, seriez prêt à ça ?
Bien sûr, je fus prêt à ça.
Ouais, bonne journée, monsieur.
C'est l'extrême gauche qui fait ça.
croyez ?
Oui, bien sûr. C'est parce que monsieur Bernard Arnault est copain avec, avec Sarkozy. C'est scandaleux. C'est scandaleux. On va avoir de plus en plus de mouvements de ce genre. Et c'est la démocratie qui est en jeu.
Là, la démocratie actionnariale, surtout, qui est menacée ?
Non, non, pas la démocratie actionnariale, la démocratie tout court. Parce qu'en France, on ne peut pas être de droite. On ne peut pas prôner le travail, prôner tout ce qui concerne, je dirais, le courage. Moi, j'ai 64 ans, je continue à travailler parce que je trouve que c'est normal.
Mais ces personnes-là, elles voudraient justement continuer à travailler.
Oui, et on mais bon, ça fait partie, je dirais, malheureusement, de la mondialisation. Ça me scandalise tellement que je trouve, je suis un vieil actionnaire de LVMH, il ne s'est jamais passé quoi que ce soit chez LVMH. Ils sont venus pour faire le bazar.
Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe là ?
Qu'est-ce que vous voulez faire pour être compétitif en Europe ? Il faut supprimer certains emplois. Et surtout quand les emplois vieillissent, il faut les mettre à la retraite. Moi j'ai été mis en pré-retraite à 55 ans. Et il a fallu que je m'occupe pour passer mon temps. J'en ai 79, qu'est-ce que vous voulez faire ?
Vous pensez que c'est la fatalité ?
C'est pas la fatalité, c'est la concurrence. Il faut quand même qu'on puisse tenir le rang. Il n'y aura plus d'emplois. Sans compter quand on voit comment les gens se comportent devant le buffet, on a écœuré. Hein.
C'est-à-dire comment ils se comportent devant le buffet ?
Ils se comportent comme s'ils étaient au Biafra. Vous avez entendu parler du Biafra. Ils étaient au Biafra et c'est incroyable. Et les femmes pires que les hommes, d'ailleurs.
Les actionnaires, là, à l'intérieur ?
C'est tous des actionnaires, évidemment. C'est tous des actionnaires. Pour rentrer là-bas, il faut être actionnaire.
Hein. Et vous, du coup, vous n'avez pas mangé dans le cocktail ?
Mais non, mais j'ai pas mangé. Je ne viens pas pour manger. Je viens pour l'assemblée, quand même. Mais c'est un chat. J'ai connu des assemblées il y a 20 ans où on ne se disputait pas et on crevait du champagne et c'était plus agréable. Mais là, depuis que les assemblées se sont démocratisées, ça devient insupportable. Et je vous avoue franchement, les femmes de Neuilly sont les plus fortes. Hein.
Les femmes de
Neuilly sont les plus fortes.
Les plus fortes à se ruer sur les
buffets. Les buffets sont imbattables.
Hein. Comment vous reconnaissez qu'elles sont
de Neuilly ? Ma femme venait pour voir le bouquet de fleurs, elle n'arrivait plus à voir le bouquet de fleurs. Alors elle ne vient plus et puis elle est morte depuis.
Comment vous savez qu'elles viennent de Neuilly ?
Non, mais c'est toutes les assemblées, c'est la même chose. Moi, je viens en principe pour voir les questions qui sont posées. Mais c'est le buffet qui devient odieux. Hein.
Vous inquiétez, là, pour le cours de votre action, avec ce qui s'est passé ce matin ?
Absolument pas.
Donc, mieux, si on délocalise, on sait que les bénéfices augmentent, c'est ça aussi ?
Oui.
47 mères de famille ont leur famille brisée, plus d'emplois, plus de revenus.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez,
c'est
monsieur ?
C'est un bon produit, le champagne.
Oui. Oui, mais
elles
savent travailler, elles font des belles choses.
Vous dites que vous les représentez. Vous avez une bande avec bleu, blanc, rouge.
Eh bien,
je ne sais pas qui vous êtes.
C'est le signe des élus. Je suis une élue d'une des communes. Là
vous
où
dites
où
que vous êtes une élue.
Mais, enfin,
mais
monsieur,
j'en ai pas la preuve.
Les papiers.
Mais j'en ai pas la preuve, mais madame.
La
vous êtes dans la rue.
Bon, alors, mais vous pouvez quand même me donner mon... Monsieur.
Mais ce n'est pas une preuve que vous êtes élue.
Les actionnaires de Airbus ont refusé leurs dividendes pour les donner aux salariés. Est-ce que vous pensez que les actionnaires de LVMH seraient capables de faire la même chose ?
Mais les actionnaires de LVMH n'ont rien à voir avec cette délocalisation.
Bon. Ils sont odieux, odieux. Il n'y a pas de sentiment, il y a le porte-monnaie, il y a le portefeuille. C'est... Enfin, bon sang, quand on vous explique qu'il y a 147 femmes qui ont un savoir-faire qu'on va jeter à la rue, ça ne peut pas laisser indifférent. Moi, je crois plus en rien.
Là, le cortège déambule le long de la rue de Rivoli. C'est pas une des plus moches rues de Paris, je crois.
Ah, c'est joli, c'est vrai. Et puis, il fait une belle journée, en plus.
Marie-Hélène, comment ça s'est passé pendant l'Assemblée ?
Le 440 est très indifférent aux petites mains de CCE. Ça, je m'y attendais. Ça me blesse même pas. Au contraire, on est digne de dire ce qu'on pense devant ce monsieur à qui ne daigne même pas venir s'expliquer.
5 minutes avant qu'on rentre dans la salle, vous me disiez oui, j'ai un peu le trac quand même.
J'avais des boules. Mais après, quand je les entendais parler, je me suis décontractée parce que je vais dire mais qu'est-ce que c'est que ces guignols qui parlent ? Pour moi, c'était vraiment des guignols et ils me parlaient rentabilité, pognon, c'est écœurant. Les ouvriers, on nous traite souvent de racailles. C'est eux la racaille en premier. Et je le dis fortement.
Mais on aurait dû acheter plusieurs actions.
Ouais.
Plusieurs.
Ça coûte beaucoup d'argent.
100 euros, ouais.
Je ah, maintenant t'as de l'argent.
Mais non, je vais le revendre.
Mais non, garde pour toi, tu as raison, Marie-Hélène.
Ça, je le garde, c'est mon carton d'Assemblée Générale. Regardez, LVMH, Assemblée Générale, le 10 mai. Le conseil d'administration de LVMH aura le plaisir de vous offrir un produit du groupe à l'issue de l'Assemblée. Mais je ne l'ai pas eu.
Vous n'avez pas eu le champagne?
Non. Ben non, ils nous ont virés.
Attendez. Là, on est passé devant toute une série de vitrines du luxe. Et là, on est où?
Kenzo. Bah, c'est ce qu'on fabrique, les costumes Kenzo.
Donc là, on est devant la vitrine. Oui. Derrière, il y a les clientes, le service d'ordre qui est un peu inquiet.
Là, c'est les magasins Kenzo où toutes les petites mains que vous voyez là ont fabriqué la plupart des costumes. Et aujourd'hui, on veut les mettre au chômage.
Et là, ils ne veulent pas ouvrir la porte?
Non, ils ne veulent pas. C'est les petites mains de CCE qui ont fabriqué les costumes. Kenzo, Kenzo, on veut travailler. Kenzo, fabrication française. Kenzo, fabrication française.
Et on passe le tract sous la porte, donc, puisqu'elle reste fermée.
Voilà.
Qu'elle vienne lire les tracts, la vendeuse de Kenzo.
C'est quand même pas normal, ils ont peur de nous, qu'est-ce qu'on va leur faire? Rien du tout. On est là pour sauver notre emploi, ils nous gardent comme des pestiférés. Ils veulent même pas d'explication, vu qu'ils n'ont qu'à ramasser le tract et le lire. On va pas les taper, hein. Vous voyez un costume comme ça? Ben ça coûte 1000 euros. Alors que nous, on gagne 1000 euros sur un mois. Hein, quand même. Hein, Lulu?
Ah ouais, ça c'est vrai.
Ça c'est du gancé, ce que vous voyez tout autour noir, c'est du gancé. Ça, on les fabrique.
Une veste beige avec un contour noir.
Ouais. On en a chié, en parlant poliment, pour faire ces vestes-là. Et la veste et le pantalon, ça ne fait même, on ne gagne même pas ça. En un mois. Il y en a pour 1360 chez Kenzo. Veste et pantalon, on gagne 1100 euros à peine par mois.
Rien que la partie du col de la veste, il y a 8 morceaux. La petite partie arrière. On en bave pour les faire. Ils sont payés à combien? 1000 euros. Et nous, 1360 et puis plus. C'est un mois de salaire.
Ah ouais.
On attendra le solde. Hein. On attend le solde.
Moi je dis que ici, ils mettent des vignettes. Ils ne mettent pas Made in France à l'extérieur là-bas, en Roumanie. Mais arrivé en France, on met Made in France. Le vêtement, il est bâti et enfin il est construit là-bas. Arrivé en France, on met Made in France. Et ben voilà. C'est pour ça qu'on fait aujourd'hui notre travail.
On y va les filles.
Ouais,
sur
les bus,
ouais, on y va, hein, on y va.
On va au bus, hein.
Ah, bon, d'accord. Bon, François, je te dis au revoir.
Attends, à bientôt.
Ouais, ça a été super. Au revoir. À bientôt.
À bientôt. Hein.
Nous, il faut rentrer dans le Nord, il n'y a pas de souci.
Elle a dit qu'elle allait
en prendre.
Moi, j'avais pris votre père.
Moi, je vais bien. En plus, hey, Choisis.
Il reste combien de passes de libre en car, s'il vous plaît?
Est-ce que tout le monde a une place assise?
Vous venez d'entendre un reportage de Pascal Pascariello et François Ruffin. Merci à Madeleine Charenton et aux licenciés de la Samaritaine, à Marie-Hélène Bourla et aux ouvrières de CCE, à Bertrand Roté, ainsi qu'à M. Baudou, le maire d'Aulnoy-Emery. Nous vous conseillons de lire « Portrait de l'homme d'affaires en prédateur » de Michel Villette et Catherine Villermeau aux éditions La Découverte, ainsi que « L'ange exterminateur » d'Héry Routier aux éditions Albin Michel. Mais toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique « Émissions », là-bas si j'y suis. À la technique, aujourd'hui, nous avions Michel Bézikian et Olivier Riotor. Réalisation, Yann Chouquet et Koya Nguyen. Assistante, Charlotte Perry. Le chef du répondeur, c'est Christophe Humbert. Et le numéro du répondeur de là-bas, si j'y suis, est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. France Inter, vous l'entendez, il est tout juste 16h.